Live, la vie de famille en direct. Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados, racontez-vous. Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, pas celle des pubs télé. Parents Live, tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM de 13h à 14h. Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos réalisées par les parents, pour les parents, sur parentslive.fr.
Eh bien, bienvenue si vous nous rejoignez, les amis, sur le 101.2, émission spéciale. Aujourd'hui, on vous en parlait la semaine dernière, émission Parents Live, l'émission qui s'intéresse à tous les sujets autour de la parentalité, portée par la petite poussée, représentée ici par Liamine, qui est notre animateur principal et notre coordinateur.
C'est toi l'animateur, Grégo, je vais pas prendre ta couronne, c'est toi le patron.
Ça se voit pas qu'on rougit à l'antenne, c'est ça qui est bon. Donc, émission spéciale aujourd'hui, en direct de la maison des habitants Fernand Texier à Saint-Martin-d'Hères. Pour la quinzaine de la parentalité, Liamine.
Exactement, on est encore du coup, et on est bien content d'y être, dans la dynamique de la quinzaine de la parentalité organisée par la CAF de l'Isère, avec une multitude du coup d'événements qui se déroulent pendant ces 15 jours. Hein. Je crois qu'on est à plus de 130 événements. Et c'est l'occasion pour les parents de découvrir beaucoup de ressources, pour les professionnels de croiser, de découvrir aussi des ressources, parfois autant les parents que les pros, de s'inspirer de ce qui se fait. Parce que je crois qu'on a toujours besoin d'être inspiré. Et aujourd'hui, une spéciale à la maison de quartier Fernand Texier à Saint-Martin-d'Hères, sur lequel on met on a un événement aujourd'hui, événement avec un focus sur la place des adolescents, pouvoir écouter les adolescents, en tout cas notamment sur cette émission, c'est assez transversal tout au long de l'après-midi. Mais là, sur l'émission, c'est la question de la place des ados. Du coup, pouvoir entendre les ados sur... sur leur point de vue, sur leur vécu, dans leur situation, dans leur vie de famille, parce qu'on parle beaucoup des ados, mais finalement, on les entend pas tant que ça. Mmh. Et là, aujourd'hui, on a voulu mettre un petit focus. Et à part en live, c'est un exercice sur lequel on s'est déjà attelé depuis 3 ans, avec l'expo La Place des Ados. Et donc, La Place des Ados, c'est une exposition, du coup, sur laquelle on est allé. Donc, on a 7 panneaux. Illustrés, sur laquelle, qui mettent en évidence des paroles d'ados. Et ces paroles d'ados, on peut les retrouver en podcast, et on a toute une série de podcasts. On a interviewé une 50aine d'ados pour savoir comment ils se sentent dans la famille. Est-ce qu'ils sont sous pression? Est-ce que ça va? Comment ils peuvent échanger en termes de com avec leurs parents? Enfin, où est-ce qu'ils trouvent des soupapes, etc. Donc voilà, ça c'est tous les podcasts à découvrir sur Parents Live. Mais aujourd'hui, on va surtout découvrir donc tout ce qui va se passer à Fernand Texier. Et là, c'est Mélodie de la référente famille de Fernand Texier, enfin référente famille pas que, en tout cas qui va se présenter, directrice. Voilà. Elle a été promue ce matin, j'ai pas toutes les infos. Voilà. Merci Mélodie, à toi l'antenne.
Merci Liamine pour cette présentation. Donc oui, je travaille à la maison de quartier Fernand Texier avec toute une équipe et on travaille beaucoup pour et avec les familles. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de proposer un événement qui s'appelle En famille, ça pétille, une après-midi pour s'amuser, se rencontrer, échanger. Donc c'est une après-midi qui va accueillir tous les parents, quel que soit l'âge de leurs enfants. Donc on va proposer des jeux et des ateliers pour tous à partir de 15h et jusqu'à 19h. Il y aura des jeux en bois, des jeux vidéo, un atelier créatif, des activités pour les tout-petits, des stands d'information sur tout ce que proposent les maisons de quartier et aussi sur Paroles d'ado dont vient de parler Liamine. Il y aura aussi une exposition sur les écrans et sur comment utiliser les écrans en famille qui sera proposée par le pôle de santé interprofessionnelle. Et il y aura également une buvette avec l'association des parents d'élèves de l'école Pauline Léon pour se rafraîchir en cette journée bien chaude. Mmh. Bulletin météo au passage. À 16h30, il y aura un spectacle qui dure 35 minutes et qui est tout public, qui s'appelle « Les 7 familles de Gata » et qui mettra à l'honneur la thématique de la quinzaine de la parentalité sur le fait qu'en famille, on compose et qui parlera donc d'un petit garçon dont les parents se séparent et comment est-ce qu'il vit, quelles émotions il traverse et voilà, quelles aventures et quelle joie aussi cela lui procure ses nouvelles vies avec ses 2 nouvelles familles. Et pour terminer, on bouclera la boucle avec un temps spécial pour les adolescents et leurs parents, avec une conférence échange débat qui s'intitule « Ados et parents d'ados à chacun sa crise » et qui sera proposée par Béatrice Camerer, qui est une journaliste spécialisée en éducation et parentalité, qui publie notamment dans la revue spécialisée sur la parentalité « L'école des parents ». Voilà, et les ateliers se poursuivront pendant la conférence. Et pour ceux qui nous écoutent et qui veulent venir à la conférence, sachez qu'il y a en parallèle un atelier proposé pour les enfants qui ne sont pas en âge de participer à la conférence et qui pourront faire des activités autour de la nature dans le jardin de la maison de quartier. Voilà.
Eh ben dis donc, quel programme. Il y a un gros programme du coup, n'hésitez pas à venir du coup à la maison des habitants Fernand Texier. On est au 163 avenue Ambroise Croizat, voilà, à Saint-Martin-d'Hères, les amis. Et puis Yamine, on a plein d'invités autour de cette table aussi.
Alors on est ravis d'avoir beaucoup d'invités. Donc voilà, Mélodie a pu en présenter certains, notamment les professionnels qui vont pouvoir intervenir tout au long de l'après-midi, qui sont autour de la table. Mais on a aussi le plaisir et l'honneur d'accueillir l'UPP. Alors dit comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est UPP. Université populaire des parents, on est ok? Bah, je pense que vous êtes bien plus à même que moi pour vous présenter et présenter du coup à quoi sert une UPP, ce que c'est et comment ça se déroule, comment ça se construit.
Ok, bah merci déjà pour l'invitation, on est ravis de participer à cette émission avec vous. L'UPP, donc Université populaire de parents, en fait c'est un groupe de parents qui effectue une recherche sur la parentalité. On s'est réunis depuis 2022 et en fait c'est tout un déroulement voilà sur 3 ans ça se fait. On est accompagné dans notre démarche par un animateur et financé par le CCAS et la CAF. Et voilà, et en fait on est aussi soutenu dans notre démarche par un universitaire qui lui connaît la méthodologie d'une vraie recherche et en fait qui nous accompagne à faire notre propre recherche sur un thème en lien avec la parentalité mais qui nous tient à cœur en fait.
Okay. Voilà. Tu peux nous donner un exemple par exemple d'une des recherches qui a été faite et comment ça s'est construit, comment vous arrivez à démêler tout ça et à faire...
Bah, en fait, moi, je vais vous parler de la nôtre. Mmh. Du coup, on a abouti sur... en fait, si tu veux, au départ, c'est des questions que les parents se posent. On a rassemblé toutes ces questions, tous ces questionnements. On a choisi un public cible et du coup, c'est pour ça que là, on est vraiment inscrit dans la démarche de la journée d'aujourd'hui. C'est notre public cible, c'est vraiment le public adolescent. Et en fait, on a... On a déterminé les interrogations des parents sur ce groupe de parents sur cette tranche d'âge. Et en fait, pour nous, ce qui était vraiment important, c'était le bien-être de nos enfants, leur avenir, comment faire pour qu'ils se sentent bien et de relier ça avec la parentalité. Quel est notre rôle, nous, en tant que parents, en tant qu'adultes référents prof plutôt, tous les adultes qui entourent l'enfant, comment ils peuvent permettre à celui-ci de se sentir bien et de se sentir épanoui. Et du coup c'est là-dessus que porte notre recherche.
Pour le coup, du coup, l'UPP, enfin quand on parle d'UPP, d'Université populaire des parents, je crois savoir qu'on s'appuie justement sur l'expérience des parents et c'est donner vraiment la parole des parents aussi en direction des professionnels pour qu'elle soit entendue, mais c'est finalement une parole d'expert, pour le coup d'experte autour de la table.
Oui, effectivement. En fait, l'UPP des parents, en fait, ça existe en France depuis 2025. Donc, en fait, 2005. Donc, en fait, il y avait depuis 2005 jusqu'à maintenant à peu près 49 UPP dans toute la France. Chaque génération du EPP, et ils ont disposent de 3 ans. Pour mener une recherche sur la parentalité. Et c'est un travail des parents qui vont poser des questions, ils vont travailler, ils vont faire des questionnements et amener la recherche pour justement travailler sur un sujet de recherche sur la parentalité. C'est vraiment un travail des parents. Un groupe de parents qui sont aussi soutenus par l'association fédérative de l'Université populaire des parents. Et ce travail-là, donc en fait, ils sont soutenus quand même par des animateurs de la CAF, de la maison des habitants, maison des quartiers. Et ils sont aussi soutenus par méthodologues, donc universitaires, qui va leur aider de vraiment amener le travail sur la méthodologie de recherche, justement pour vraiment finir la recherche et aboutir jusqu'à la rédaction de l'article sur leur recherche.
D'accord, donc on a vraiment des parents du coup qui partagent leurs expériences, qui avancent avec les ressources hein, qui existent tout autour, les acteurs qui existent tout autour, mais c'est vraiment cette parole-là de parents qui compte finalement, et c'est de là qu'on part.
Si je... En tout cas, c'est ce que la FUPP, donc l'association qui gère toutes les UPP de France, c'est vraiment
cette ambition, peut-être ?
Oui, voilà, les conditions de la FUPP, c'est que c'est vraiment un sujet que les parents abordent, qui traitent, et c'est vraiment leur parole qui est mise en avant. Et il n'y a pas les professionnels qui interviennent, c'est vraiment de l'aide sur la méthodologie ou sur la manière de faire, mais dans l'écrit ou dans le contenu, en tout cas, c'est vraiment la parole du parent. Et en majorité, bon, il y a quand même pas mal de mamans, mais il y a quand même aussi des papas, donc c'est vraiment leur parole et c'est leur travail qui est mis en avant. Voilà.
D'accord, est-ce qu'on peut dire que l'UPP, pour le coup, donne de la motivation, aide les parents finalement à favoriser ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, c'est de montrer que les parents peuvent aussi faire des choses.
Vas-y, question. Non, je...
Oui, effectivement, c'est une démarche participative qui favorise la prise de parole des parents. Et même au-delà de ça, ça peut permettre de parfois faire bouger des choses. En fait, c'est aussi cette vocation-là. C'est-à-dire que par notre recherche, en fait, on espère quand même que soit ça puisse être quelque chose qui puisse inspirer des encadrants ou bien même d'autres parents. Ça a aussi vocation de faire bouger les lignes d'une manière plus large, quoi, en fait.
Et ça permet en fait aussi beaucoup, en tout cas pour la majorité des parents qui font partie des groupes du PP, et même moi d'ailleurs, et ben en fait ça nous, le fait de nous mettre en avant et le fait de nous donner la parole, ça nous permet d'étudier, de travailler, d'avoir des méthodes qu'on n'aura pas l'habitude ou on n'aura pas l'occasion de faire ou de traiter. En fait, on est tous au même niveau, il n'y a pas de niveau d'études, il n'y a pas de fin d'infériorité. C'est le parent qui est mis en avant et dans le groupe, il y aura toujours un qui aura plus de facilité sur certaines choses et du coup, bah, ça aide. Et donc, une fois qu'on intègre le groupe et qu'on sait, et ben, les parents sont beaucoup plus à l'aise et en fait, on arrive plus facilement à travailler sur des sujets que peut-être on dirait, bah, c'est pas pour nous, quoi. Quand on entend université, on se dit c'est des études, il va falloir un niveau, tout ça. Et finalement, bah, non, c'est pour tous les parents et c'est vraiment le parent. La manière dont lui, il voit l'éducation de son enfant et la problématique qui peut en découdre. Et du coup, c'est ce qui fait l'UPP, en fait. Il n'y a vraiment pas de peur et ça encourage tout le monde. Voilà. C'est l'UPP, en tout cas, ce que ça peut donner.
Et du coup, j'entends bien que, enfin, pour le coup, la condition... pour entrer à l'UPP, ben, c'est peut-être être parent, ou peut-être même pas, finalement. On peut aussi être futur parent.
C'est ton diplôme.
Il y en a qui ont qui sont bien diplômés. Hein, quand on a 3-4, là, du coup, les études, c'est un peu rude. Hein, du coup, c'est des gros diplômes, gros challenge. Mais pour le coup, finalement, on accueille tout le monde sans...
Exactement. En fait, c'est ouvert à tout le monde, tous les parents. C'est vrai, notre recherche, elle était portée sur les adolescents. Mais en fait, il y avait plein de recherches des autres UPP, elles étaient faites pour les enfants de tout âge, en fait. Et pour revenir à votre question, c'est quoi les conditions de joindre l'UPP ou de faire une part du UPP? C'est vraiment être parent. Et c'est quand même un engagement d'avoir envie de faire mener ce recherche, vraiment être comme un parent acteur dans la société. Donc en fait, parce que le but de tout ça, c'est vraiment de faire en collaboration avec les professionnels pour justement améliorer la vie de nos enfants. Quel que soit le sujet de recherche, c'est vraiment le but final, c'est ça en fait. Le bien-être ou le bonne éducation, les bonnes conditions pour nos enfants. Et c'est vraiment le point d'intérêt de tout le monde, parents, professionnels.
Ah oui, justement, vous parlez des professionnels. Enfin, ma question, c'est du coup, est-ce que vous pensez que... Enfin, moi, j'ai mon opinion, mais du coup, est-ce que vous pensez que ces recherches et que vos travaux et votre parole est utile aux autres professionnels, aux professionnels de l'éducation, de la coéducation, que ce soit à l'école ou voire même les institutions?
Tu veux répondre, qu'est-ce que tu demandes?
Mais on l'espère fortement en tout cas, et oui, je pense que les professionnels ne peuvent pas faire sans les parents. Et oui, tous les contacts qu'on a eu la chance d'avoir jusqu'à présent avec les différents professionnels qu'on a rencontrés pour présenter notre recherche ou pour leur poser des questions lors d'entretiens pour faire avancer notre recherche ont toujours été dans ce sens-là. Voilà, on travaille ensemble. Notre objectif commun, c'est le bien-être des enfants. Voilà. Et en tant que parents, on a forcément beaucoup à leur apporter parce qu'on connaît bien le sujet.
C'est votre sujet. Quand même. Voilà. C'est vrai que vous parlez beaucoup de bien-être des enfants, mais je vous questionne aussi peut-être sur le bien-être des parents dans l'histoire aussi. Enfin, la dernière émission de la semaine dernière avec Grégoz, c'est donc la maison des habitants baladins, c'est sur la question du répit parental. Hein. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de bien-être des enfants, mais peut-être pas s'oublier aussi en tant que parent, parce que je crois que savoir que vos recherches, elles sont aussi très utiles aux parents.
Je pense qu'après, il en découle quand... pardon. Du coup, bah, forcément, ça va découler. Si on apporte du bien-être à notre enfant, forcément, nous aussi, on aura le retour de ce bien-être-là. Mais oui, c'est vrai qu'en tant que parent, on pense tout le temps au bien-être de notre enfant avant le nôtre. Et il faut arriver à combiner les deux.
Voilà, surtout cette période de l'adolescence qui est la période où il y a la scission qui se fait entre mes parents, je les repousse parce que j'ai envie de voler de mes propres ailes. C'est un truc très naturel, mais à la fois c'est plus difficile peut-être à vivre pour les parents où t'as toujours besoin de moi, mais on sent que moins. Bon, je viens faire appel à toi juste pour ça, mais plus pour d'autres choses et tout. Peut-être qu'on se sent un peu un moment démuni de l'incompréhension qui est en train de se creuser et qui est un truc qui se passe naturellement, je pense, à l'adolescence, mais qui amène des zones un peu qui doivent faire des fois mal aux parents, j'imagine. Donc c'est utile vos recherches sur cette thématique de l'adolescence pour plein d'autres parents.
Oui, c'est sûr. Bah, en fait, aussi, le fait de participer à ce genre d'initiative, ça nous prépare peut-être à cette adolescence et ça nous permet de peut-être mieux comprendre aussi nos enfants. C'était une manière de s'en rapprocher aussi, en fait, de faire ce travail-là.
Bien sûr.
Et voilà, après, et aussi par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, nous, ça nous permet de nous épanouir et de, comme disait Mariam, de découvrir plein d'aspects. Là, par exemple, une émission de radio, de découvrir, de parler avec des professionnels de l'adolescence. Enfin, voilà, c'est super intéressant.
Alors, effectivement, on entend ce besoin de comprendre les ados. Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi pour nous l'envie de leur donner la parole, finalement, et qu'ils puissent eux aussi s'exprimer sur ce qu'ils vivent, sur cette fameuse relation du coup familiale qui est toujours, en tout cas, on l'a toujours pas par le prisme du conflit, que c'est très dur, on n'a jamais vraiment la parole d'ado pour savoir quels sont les enjeux pour eux. On va leur donner la parole dans deux petites secondes. Juste par rapport à vos recherches, je crois qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le rayonnement que ça peut avoir, l'utilité que ça peut avoir. Il faut savoir enfin que, notamment, on prend pour exemple les professionnels, mais il y a aussi les institutions, comme la CAF de l'Isère et la CNAF, même la Caisse nationale, du coup, qui a vraiment cette dynamique-là d'aller chercher de la parole de parents, de l'expertise de parents, pour mieux définir aussi bah, les différentes politiques publiques qui sont en direction des familles. Hein. Donc,
D'ailleurs, du coup, par rapport à notre recherche, en fait, on a effectué différents questionnaires et il y en a un qui s'adressait directement aux ados. Parce qu'en fait, on trouvait ça important, pas d'avoir uniquement la parole des parents et des encadrants, mais aussi d'avoir le retour, de croiser les regards en fait entre l'adolescent, les adolescents et les parents sur des sujets.
Et bien là, on va pas croiser, enfin on croise déjà les regards, mais on va croiser les voix aussi.
Voilà.
Et donc du coup, on invite Louisa, si tu es d'accord pour prendre l'antenne. Du coup, Louisa qui a accompagné ta voisine en face, du coup, qui est-ce ? C'est Shaima. On a Louisa et Shaima qui vont pouvoir du coup nous parler. Nous parler, elle aussi, du coup, de l'adolescence. Ah, et on a un troisième invité surprise, mais il est très discret, donc on va lui laisser le temps d'atterrir tout doucement. Donc, on va demander à Louisa et Shaima. Pour vous, est-ce que vous pensez déjà que c'est facile d'être parent ?
Je pense pas.
Ouais, enfin, non, mais oui. Genre, ça dépend les moments.
À quel moment, du coup, tu penses que c'est compliqué ? Alors, Shaima qui nous dit « je pense pas », hein, on va y revenir aussi, dis-moi, Louisa.
Bah, des fois, genre, quand ils sont petits, par exemple, c'est compliqué, mais quand ils grandissent, genre, plus ils grandissent, plus c'est facile.
Shaima dit non, non, du tout. Bah, allez, Shaima argumente, allez, vas-y, attends.
Quand on est plus grand.
Non, bah mais, si. Mais, non, mais ceux qui ont, je sais pas, moi, genre, ton enfant, il a 20 ans, il est grand, il est mature.
Mais, voilà, on parle d'adolescents.
Oui, mais les adolescents, oui, bah, plus tu grandis, plus tu... Et ça dépend en plus.
Donc toi, Shaima, pourquoi tu penses que c'est compliqué?
Parce que on n'a pas, comme on n'est pas de la même génération, on n'a pas la même vision des choses.
Ouais.
Et on n'est pas, comme on n'est pas la même personne, on vit pas forcément la même chose. Du coup, c'est plus compliqué de gérer.
Après, ils sont pas tous éduqués pareil, hein.
Bah c'est normal.
Bah voilà, bah du coup, il y en a, c'est plus facile.
Toi, qu'est-ce qui est compliqué du coup de gérer à cette période d'adolescence, Shaima ?
Le comportement, l'attitude.
Des parents ou des ados ?
Des ados.
Des parents aussi peut-être, des fois, non ?
Non, ça va.
Non, des ados, c'est-à-dire, vas-y, dis-nous.
On s'énerve beaucoup pour rien. Et voilà.
Tu penses que c'est toujours pour rien, du coup, qu'est-ce qui te fait dire que c'est pour rien, quoi ? Quand tu dis on s'énerve pour rien, qu'est-ce qui te fait dire que c'est pour rien ?
Bah, ça dépend des ados, mais moi je sais que des fois genre, je m'énerve, mais soit il n'y a pas de raison, soit le truc il est. Enfin, la raison elle est minime. Voilà.
D'accord, et toi tu penses que c'est dur à gérer avec tes parents ?
Oui. Oui.
Alors, notre invité Elias, toi qu'est-ce que t'en penses du coup, Elias, de ce qu'on
moi,
se raconte ?
C'est dur d'être. Pour moi c'est dur d'être un adulte parce que. Nous, quand on sort genre faire la fête, jouer ou avec des potes et tout. Mais genre, eux, quand ils sortent, c'est soit pour faire les courses, soit pour aller travailler. Bah, nous, on a la flemme d'aller à l'école pour faire du 8h, 17h. Eux, ils ont la flemme d'aller au travail pour faire du 6h, 6h, 21h. Donc, ça a l'air plus chiant d'être un adulte que d'être un ado.
Eh ben, je te pose la question, je vous pose la question, est-ce que c'est facile d'être un ado ?
Non, non plus.
Oui et non.
Et j'avoue, non.
Ça dépend sur quoi, mais la plupart du temps, c'est non.
Ça dépend pourquoi, c'est non, Elias, toi, qu'est-ce que t'en dis ?
Oui et non.
Eh ben, on va pouvoir avancer, là, du coup. Alors pourquoi, du coup, Shaima, toi ? Tu dis que c'est pas...
C'est pas évident. Bah, par moment, souvent on n'est pas écouté ou par exemple on va agir mal ou on va s'énerver ou un truc comme ça. Et après les parents ou quelqu'un, un adulte quoi, et bah, il va le prendre mal, il va s'énerver la personne aussi, mais pourtant c'est pas notre but quoi.
Oui, mais le collège aussi. Oui. Genre les notes, les profs, des fois il y a de l'harcèlement. Ouais, bah justement, genre c'est difficile. Et voilà, genre le collège en majorité. C'est tout.
Moi je dis c'est dur d'être un ado parce que déjà, des fois tu pleures pour rien. Et enfin, et genre tes parents ils comprennent pas, et même tes potes et tout, et genre et du coup ils s'énervent contre toi pour rien, et du coup après tu t'énerves contre eux, du coup après il y a une bagarre, et après on se parle plus jusqu'à la fin de l'année, mais au final on se reparle le lendemain.
C'est que là on entend plusieurs choses, hein. On entend Shaïma du coup l'histoire de la communication, que, du coup, parfois on essaie de dire des choses et c'est mal compris alors que l'intention n'est pas mauvaise, ou en tout cas voilà c'est mal interprété, hein. si je me trompe. Louisa, toi tu nous parles quand même là de la pression qu'il peut y avoir à la fois au collège mais aussi de par le regard des autres de ton âge. Ouais. Bah, il hoche la tête, hein. Donc du coup ils ont là, disent oui, ça me rassure, ouais, je sais pas. Voilà, on essaie de traduire. Et toi Elias, du coup là j'ai l'impression que tu parles aussi pas mal de gérer les émotions, qu'il y a des émotions qui bougent et que c'est pas toujours évident de gérer tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que les parents, voire même les adultes de manière générale, on va commencer par les parents, se rendent compte de tout ça là?
Non.
Bah non. Ça dépend. Mon père un peu moins que ma mère, mais ma mère pas beaucoup quand même.
Bah. Enfin, ils savent les choses, mais ils se rendent pas compte comme nous, on le voit, quoi. Donc, voilà.
Donc tu penses qu'ils savent, mais qu'ils comprennent pas forcément.
Oui. Ou qu'ils minimisent les choses.
Toi, Louisa, t'as l'impression que les adultes, de manière générale, ils entendent et ils comprennent ce que vous racontez, ce que vous vivez.
Enfin, il y a des choses qu'ils comprennent pas. Parce que, genre, ils comprennent pas, c'est tout. Je sais pas comment expliquer, il y a des choses qu'ils comprennent pas.
Comment on pourrait faire, du coup, pour... Alors, les parents aussi, hein, on vous donne la parole, du coup, est-ce que vous avez l'impression, du coup, les parents, vous avez... Il y a besoin d'un décodeur, d'un traducteur, ou... Est-ce que vous avez l'impression de comprendre ce que les enfants, ce que les ados vivent, hein, j'ai dit les ados, ma langue a fourché, les ados, par exemple.
Ben, non, en fait, j'ai l'impression que... Comme quand nous on était ados aussi, on se disait nos parents ils comprennent pas. Peut-être qu'ils comprennent, on comprend quand même des choses, mais peut-être pas tout de suite sur le moment où le jeune il vit, il traverse une crise. Parfois ben, nous on va réagir aussi au lieu de réfléchir posément et de prendre les choses tranquillement, on va réagir. Aussi émotionnellement en fait. Donc on ne comprend pas toujours.
Et oui, je pense comme ma fille disait aussi, on minimise les choses très souvent. On prend la parole de l'ado, mais on la met un peu de côté. Et c'est vraiment quand sur certains sujets où on a une alerte au bout de la quatrième voire la cinquième fois, où là on se pose un peu des questions en se disant peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Et des fois, c'est pas pris en compte assez rapidement. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'autour de la table, les enfants le disent un peu. Il y a cette attente-là vis-à-vis de l'écoute et de la responsabilité aussi, je pense. Voilà.
Moi, je pense quand même... je parle de moi-même, peut-être la plupart du temps, j'arrive à comprendre en fait, mais c'est moi comment je comporte dans la situation. En fait, peut-être l'enfant ou l'ado, il va dire toi tu n'arrives pas à comprendre. Mais en fait, je comprends, mais je ne donne pas l'importance aussi que l'ado il va donner l'importance pour la situation. Donc pour ça, je pense. Que l'ado il va dire oui mais mes parents ils comprennent pas en fait c'est difficile, ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi la difficulté, mais la plupart du temps quand même c'est des choses quand même, on arrive autant de parents de vivre avec nos enfants, on arrive à comprendre les choses, mais de se porter de manière quand même un peu avec des patients, c'est ils vont l'interpréter qu'on comprend pas les choses. Donc en fait, c'est le point de vision, c'est différent entre l'adulte et l'adolescent. C'est ça qui va donner l'impression à nos enfants qu'on n'arrive pas à les comprendre. Mais c'est sûr, c'est être ado, c'est pas évident, le changement des émotions. Un jour, on est tellement, on pense que la vie est noire, c'est fini, le monde est tout noir, et le lendemain, on est bien, la vie est rose, tout va bien. Donc c'est ça le changement très, parfois très radical de le jour le lendemain qui fait c'est pas évident d'être adolescent.
Qu'est-ce que vous en pensez, Shaima? Lisa, ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'il vient d'être dit? Oh, elle dit pardon, c'est à moi qu'on parle.
Moi, je sais pas.
J'ai quand même l'impression que vous parlez beaucoup de communication, hein, que ce soit du coup,
moi,
ou Elias.
Je pense qu'il y a pas, il y a vraiment très peu de moments où elle me comprend, où ils me comprennent. Après, moi, c'est plus dur parce que je suis hyper hyper sensible, mais c'est autre chose. Mais du coup, c'est un peu jamais ils me comprennent. C'est chiant. Une fois, je suis allée dans ma chambre, j'ai hurlé dans un coussin. Ma mère, elle a voulu ouvrir la porte, je lui ai balancé le coussin sur la tête.
Donc peut-être toi, tu n'as donc pas la chance de communiquer avec toi, non?
Mais à chaque fois qu'elle parle avec moi, c'est pour me crier dessus.
Donc il faut que tu commences à accepter.
Fois, à part des fois. Des fois où elle ne me crie pas dessus.
Non, mais
des fois.
Je pense que aussi, en fait, c'est qu'ils attendent un retour qui est à leur mesure, à leur valeur, ou enfin, à la hauteur de ce qu'ils peuvent comprendre en tant qu'ado. Et nous, bah, on a la place quand même de l'adulte, donc il faut quand même un moment où on leur pose peut-être des limites ou des conditions ou le temps, parce que à ce moment-là, c'est pas le temps. Du coup, bah, c'est peut-être là qu'ils n'arrivent pas à comprendre et que du coup ils se pensent qu'on ne comprend pas. Mais et après, bah, c'est vrai qu'on n'a pas toutes les clés, même si on est parent, bah, des fois on flanche un peu parce qu'on n'a pas, la clé pour tout de suite donner la réponse. Et du coup, bah, il faut attendre peut-être quelques jours ou le lendemain ou peut-être une heure après et on arrive à avoir cette clé. Peut-être pas en intégralité, juste un morceau, mais peut-être on a une clé mais qui n'est pas la bonne. Mais en tout cas, c'est vrai que même nous, en tant que parents, c'est très 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 difficile de trouver des réponses à tout. Et comme tu dis, dans ta colère, ben voilà, des fois on arrive et on a besoin de savoir, mais toi, c'est pas ce moment-là, c'est après. Mais voilà, donc il faut juste le temps. C'est ce qui est le plus difficile à avoir, en fait. Le temps de... que nous on trouve une réponse et que vous vous acceptez notre réponse, en fait.
Oui, puis après des fois aussi je pense que les ados ils s'imaginent que on est dans leur tête, ils vont pas forcément exprimer le fond du problème et ça vient petit à petit ou bien plus tard et c'est là qu'on comprend pourquoi il a eu cette réaction. Mais des fois il nous manque, comme elle disait, des clés. C'est après qu'on comprend, ah oui, d'accord, c'était pour ça qu'il a mal pris ici ou ça. Enfin, voilà, des fois, ça vient par bribes. Faut tirer les vers du nez, faut chercher à comprendre, mais ça, voilà. C'est dans la communication, mais c'est vrai que des fois, ça met du temps et l'ado, lui, il se dit, mais pourquoi il ne me comprend pas? Bah, parce que tu ne m'as pas tout dit, en fait.
Souvent, par moment, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé. On vous parle, on s'ouvre à vous, on va dire ça comme ça. Et soit vous n'avez pas le temps, soit vous n'avez pas envie de nous écouter. Et en fait, vous avez envie que quand ça soit vous, alors qu'en fait, ça nous concerne nous. Et du coup, bah, quand vous nous demandez, bah, du coup, nous, on réagit pareil. Ah. Moi, ça m'est déjà arrivé.
Merci, Shaima.
Ah, intéressant.
Le miroir.
Bon, voilà, comme on voit, hein, on peut avoir aussi quelques trousseaux de potentielles clés là autour de la table. Hein, vous voyez, enfin, on voit bien que l'échange, quand même, ça aide, ça contribue. Est-ce que vous pensez que le fait d'échanger, de communiquer entre parents, vos expériences de parents, finalement, de pouvoir les partager avec d'autres parents, est-ce que vous pensez que c'est profitable?
Ah oui, complètement, et c'est ce que j'allais dire, en fait, le fait de partager des groupes, que ce soit ou des groupes de parents sur n'importe quel sujet, avoir des professionnels qui interviennent aussi. Moi, pour le peu que j'ai participé, et en plus, l'UPP nous aide beaucoup, de parler, ben en fait on aborde sans le vouloir certains sujets et en fait on arrive des fois à trouver des réponses à la question ou à l'événement qui s'est passé avec notre ado la semaine d'avant ou le mois d'avant, et en fait ça nous remet en question et ça nous donne certaines clés et c'est vrai que c'est super de pouvoir échanger avec les parents, et même des fois quand on a l'occasion d'avoir des enfants avec nous, ça aide beaucoup. Et vraiment, c'est un atout de pouvoir avoir des moments comme ça. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en
pensez. Mais... Bah, du coup, peut-être que Mélodie, tu peux nous toucher deux mots sur le dispositif qui existe au sein de la maison de quartier Fernand Texier, puis plus largement, qui s'adresse à tous les parents de Saint-Martin-d'Air. Donc, je crois que ça s'intitule le Labo Parents d'Ado.
C'est ça, merci. Depuis 2 ans à Saint-Martin-d'Air, enfin même depuis plus longtemps, depuis 3 ans, 3-4 ans, on a commencé à s'intéresser aux parents d'ados parce qu'on s'est rendu compte que les parents qui avaient des enfants qui étaient jusqu'en CM2, ils avaient l'occasion de fréquenter les maisons de quartier parce qu'on proposait des activités qui étaient adaptées pour leurs enfants et pour eux. Et ils avaient aussi l'occasion de rencontrer d'autres parents à la sortie d'école. Et que donc ce besoin d'échanger entre parents qui permet de prendre du recul, de mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre, on s'est rendu compte qu'il était très présent, mais qu'il s'étiolait un petit peu au moment de l'adolescence, que les parents étaient plus isolés au moment de l'adolescence et qu'en plus c'était plus difficile parfois de parler sur le trottoir quand on croisait une maman de ce qu'on vivait à la maison, parce qu'à l'adolescence il y a un peu plus de conflits, il y a un peu plus de tensions, les sujets sont un peu moins faciles à aborder que dans l'enfance ou la petite enfance. Donc on a proposé depuis 2 ans dans 2 maisons de quartier, Paulbert et Texier, aux parents de se retrouver 2 fois par mois pour échanger justement sur les questions du quotidien d'un parent d'adolescent, parce que ce qui est ressorti, on a fait beaucoup de questionnaire, on est allé à la rencontre de différents parents, on a beaucoup parlé entre professionnels, avec le département, avec le PSIP, avec la PAS, avec le service jeunesse, avec aussi le centre de santé sexuelle et toutes les référentes familles des maisons de quartier. Et on s'est rendu compte que les parents d'adolescents se posaient beaucoup de questions et avaient ce besoin d'échanger entre eux pour se rendre compte que ce qu'ils vivaient à la maison c'était normal, pour essayer de trouver des réponses en s'inspirant de la manière dont les autres parents faisaient à la maison, pour mieux comprendre leurs jeunes aussi. Et donc on a proposé et on va continuer à proposer à partir d'octobre 2025 des temps de rencontre, donc autour de thématiques. Donc on a pu parler des écrans, de l'autonomie, de la communication, de aussi comment prendre soin de soi en tant que parent d'ado, parce que je sais pas si les ados je sais pas si on s'en rend compte quand on est enfant et ado, mais c'est vrai que les parents pensent beaucoup, beaucoup à leurs enfants et des fois s'oublient un petit peu. Donc aussi comment se prendre soin de soi pour être bien et pour être justement disponible et réussir à répondre à son ado au moment où il vient nous parler. Parce que comme tu le disais, Shaima, c'est vrai qu'on aime bien avoir un interlocuteur quand on pose une question, mais les parents parfois sont débordés, pris dans leur tête ou ont pas. Donc voilà, on accompagne aussi les parents pour qu'ils se sentent mieux et qu'ils aient... la capacité à être là où ils ont envie d'être dans la relation avec leur ado et de s'inspirer de ce que font les autres parents. Parce qu'on s'est rendu compte, et c'est ce que disait Liamine en introduction, et on en est convaincu que les parents sont experts de leur domaine. Et donc c'est ce qu'on fait dans le Labo des parents d'ado, c'est qu'en fait on valorise l'expérience et l'expertise de chacun des parents, pour aussi que chacun puisse reprendre confiance en soi et rentrer à la maison en étant boosté et en ayant de nouvelles idées pour continuer à soigner cette relation qui est si importante pour tous les parents avec leur ado.
Merci beaucoup. On va faire une petite pause si vous le voulez bien. Petite pause musicale. On revient d'ici 3-4 minutes, Liamine.
Ouais, si toujours... tu veux, tu peux nous redonner le titre de la pause musicale. Christophe nous l'évoquait tout à l'heure.
Christophe, It Is What It Is.
C'était
non, ça a changé.
C'est plus What It Is.
Chacun fait ce qu'il veut ici. On est en direct, les amis de la maison de quartier Fernand Texier à Saint-Martin-d'Air pour l'émission Parents Live dans le cadre de la quinzaine de la parentalité. Restez avec nous. On revient juste après. On est de retour, les amis, toujours en direct de la maison de quartier Fernand Texier à Saint-Martin-d'Air dans le cadre de la quinzaine de la parentalité et notre émission Parents Live, bien sûr. Yamine, la petite poussée, on est bien, on est là et on parle d'adolescence avec plein d'invités encore.
Ouais, je te dirais même, on est super bien, il fait beau, on est en plateau extérieur. Hein, je ne sais pas si ça s'entend ou pas, mais en tout cas, nous, on est bien là, on est à l'ombre des arbres avec de nouveaux invités, justement. Donc, on a pu entendre les parents de l'UPP, des ados. Et puis, maintenant, on va entendre aussi la parole de professionnels, à savoir si pour eux c'est profitable, c'est important ou pas d'avoir et d'entendre cette parole de parents, cette parole d'ado, à la fois pour s'en alimenter, faire évoluer les postures et dispositifs. Je sais pas, je vais pas trop en dire et je vais laisser la parole aux professionnels et je vous invite à vous présenter dans un premier temps, s'il vous plaît, en essayant d'expliquer du coup tous les acronymes SPIP, SPE.
Bonjour, moi c'est Karine Bailly, je suis conseillère conjugale et familiale et je travaille au Centre de santé sexuelle de Saint-Martin-d'Air et je participe au Labo des parents dont Mélanie vous a parlé juste avant.
Très bien, merci.
Moi je m'appelle Laura Vasselier, je suis kinésithérapeute sur Saint-Martin-d'Air et membre du pôle de santé interprofessionnelle de Saint-Martin-d'Air, aussi appelé PSIP. Et dans ce cadre-là, on mène des actions de prévention auprès des jeunes. Et du coup, on intervient dans les établissements scolaires, les maisons de quartier, et on essaye de faire de l'aller vers pour échanger autour de différentes problématiques de santé.
Merci.
Bonjour, moi c'est Maxime, je suis le coordinateur du PSIP, du pôle de santé interprofessionnel. Et moi j'accompagne au sein de cette structure qui compte une soixantaine de professionnels de santé, libéraux en ville, donc c'est une vingtaine de médecins, des kinés, une quinzaine de kinés, des infirmiers, des ergothérapeutes, etc., des psychologues. Et du coup on développe des projets, notamment ce que disait Laura tout à l'heure, des projets de prévention, et notamment un gros projet un peu historique, le projet Santé Jeune, c'est un des piliers de notre projet de santé, de notre structure, qu'on a commencé en 2015, si je ne dis pas de bêtises, avec Lucille qui était déjà là.
Donc Lucille Rhin, moi je suis médecin généraliste sur Saint-Martin-d'Air et je fais partie de ce PSIP, voilà, et notamment dans le projet Santé Jeune. Donc effectivement, on mène des actions de prévention et on fait de l'aller vers, comme nous a dit Laura, aller vers les enfants dans les classes de maternelle et de primaire, mais aussi aller vers les ados, puisque maintenant on va dans les collèges, voire les sixièmes, et on va aussi vers les professionnels de la petite enfance. Ça c'est surtout pour un gros projet écran, mais on a aussi des projets parentalité avec des groupes de parole. Et donc du coup, de voir votre UPP, ça nous donne des nouvelles idées, donc on viendra peut-être vers vous bientôt. Et on a aussi, enfin il y a pas mal de projets autour des jeunes et de la santé et de mener des actions de prévention avec eux.
Voilà, on a aussi également, donc qui dit ado et parentalité, on a aussi la jeunesse avec nous.
Alors bonjour tout le monde, donc je me présente, je suis Fawzi Ben Salem, donc je travaille au service jeunesse. Donc effectivement, quand on parle de ces questions d'ado, donc ça nous concerne. Donc c'est pour ça que je suis là avec vous autour de la table. En tout cas, voilà, je voulais remercier nous FM pour ce plateau en plein air et le CCAS pour ce moment assez sympa. Donc j'invite tout le monde à venir sur la maison de quartier de Texier. Je trouve que voilà, il y a des choses sympas.
Tu veux dire fantastique, ouais? Sympa, c'est...
Ah, c'est passé.
Non, c'est merveilleux, c'est fantastique ce qui se passe. Du coup, on a de la parole d'ado, de la parole de parents, de la parole de pro. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut parler de la complémentarité potentielle qu'il peut y avoir entre justement cette parole de parents et cette parole de pro?
Moi, je reprendrai ce que Louisa a dit tout à l'heure. On en parlait en antenne quand elle dit les parents ils savent mais ils se rendent pas compte. Pour nous pros c'est la même chose. Quand on, je prends un exemple un peu caricatural, mais quand un médecin par exemple doit annoncer une maladie grave, il sait que ça va être dur à entendre, mais il se rend pas compte parce que probablement qu'il l'a pas vécu celle-ci. Et puis en tout cas il l'a pas vécu de la même position si jamais il l'a vécu. Et donc il sait mais il ne se rend pas compte, c'est complètement applicable aux parents, aux professionnels de santé ou de la prévention, de tout ça. Et du coup, pour moi, ça me touche deux fois. Parce que moi, je suis parent aussi, je suis papa de deux enfants. Donc cet échange que vous avez eu tout à l'heure avec vos filles, je trouve ça hyper riche d'un point de vue de parent, mais aussi en tant que professionnel, parce que ça correspond complètement à ce que nous, on essaye de faire. Quand on porte des projets de prévention, on essaye d'impliquer des patients, histoire qu'ils nous donnent leur réalité de non-professionnels de santé, sur comment on peut faire ça, comment on peut améliorer nos projets, etc. Donc moi, ça me paraît hyper pertinent, hyper intéressant. Et ce que disait Lucille tout à l'heure, on va se rapprocher de l'UPP indéniablement pour se mettre à disposition si il y a des projets autour de la santé qui émanent et qu'il y a des envies qui apparaissent. Nous, on se rendra disponible pour travailler avec vous, avec plaisir.
Et aussi, lorsqu'on va dans les écoles pour parler avec les enfants de leur santé, notamment de leur rapport aux écrans, puisque c'est le plus gros projet qu'on porte, on se rend compte que les enfants, ils savent plein de choses, ils ont déjà plein de compétences, de savoirs, et parfois, ils ont besoin de soutien et de cadre pour arriver à appliquer tout ce qu'ils savent. Et du coup, on cherche aussi à bosser de manière conjointe avec les enfants et avec les parents pour que chacun ait les mêmes informations et que les deux parties bossent dans la bonne entente et plutôt en partenariat pour arriver à avoir un rapport sain aux écrans. Et du coup, dans nos interventions, notamment auprès des CM2, on développe une manière de communiquer, la communication non violente, pour que dans le foyer, l'information circule le mieux possible et ce que les parents et les enfants savent soit appliqué de la manière la plus sereine en partenariat, quoi.
Je rebondis sur cette envie du PSIP, parce que les maisons de quartier, on partage aussi cet intérêt-là, et ça s'est déjà fait et on a vraiment envie de pouvoir le développer davantage, parce qu'on se rend compte effectivement que sur la question des écrans, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais pour autant ne l'applique pas forcément. Et on s'est rendu compte que mettre de la communication au sein des familles, entre les parents, et comprendre aussi quels étaient les freins qui font qu'on n'applique pas les règles que l'on connaît, ça pouvait aussi se passer dans les maisons de quartier et créer du dialogue autour de ça et de la rencontre, comme aujourd'hui par exemple avec cette exposition qui va être présentée. C'était une bonne manière de faire avancer les choses et de mieux se comprendre les uns les autres.
Moi, je voudrais rebondir aussi parce qu'on ne connaît pas très bien la face du conseil familial, finalement, qu'il y a dans conseil conjugal et familial. Le conseil conjugal, c'est l'accueil des couples qui sont en difficulté, mais il y a aussi le conseil familial. Et moi, il m'arrive aussi de recevoir des parents avec un ado qui ne va pas bien, qui est en crise sur un conflit. Par exemple, ça pourrait être un conflit sur les écrans. Et vraiment, mon travail, c'est de pouvoir libérer la parole et d'entendre vraiment ce que chacun souhaite, aimerait, voudrait construire, et de pouvoir essayer de faire des compromis avec des petits outils, de méthodes, comme petite méthode de résolution de problèmes qui permet vraiment à chacun de dire toutes les solutions qu'il envisagerait pour que le conflit ne soit plus là et puis qu'on puisse trouver des solutions ensemble pour avancer.
Du coup, j'invite les parents. Et vous, pour vous, est-ce que cette complémentarité existe ou pas, ou est-ce que enfin du coup la place du professionnel dans toute cette aventure de la parentalité?
Moi, je voulais juste rebondir aussi en fait sur donc ce qu'avait dit Mélodie tout à l'heure par rapport au labo des parents. Donc j'ai participé à un atelier, en fait j'ai trouvé ça super intéressant parce que on a fait un jeu sur les écrans justement. Et donc, ce qui nous a permis de nous exprimer et d'entendre des paroles d'autres parents. Et en fait, le retour des professionnels était... j'ai trouvé ça très bien parce qu'en fait, on a senti qu'il n'y avait pas de jugement et qu'ils nous donnaient des outils éventuellement pour gérer telle ou telle situation, mais sans être donneur de leçons ou quoi que ce soit, mais simplement nous dire à quoi on avait accès. Et puis nous laisser nous exprimer, et j'ai trouvé ça super en fait, voilà.
Et du coup, Faouzi, toi qui travailles du coup avec la jeunesse, qui est très souvent, pour pas dire constamment, en relation avec les ados, est-ce qu'à un moment, tu as des ados qui viennent te solliciter ou te questionner, ou en tout cas se confier à toi sur des questions, presque j'ai envie de dire, des questions de parentalité, et toi, quel lien tu peux avoir en tant qu'acteur jeunesse avec les parents?
Déjà, je voulais vous parler de quelque chose. On discutait avec des personnes avant en aparté.
Et on discutait déjà sur... on se disait que les parents ne disaient pas souvent le mot « je t'aime » à son enfant. Tu vois, c'est quelque chose qui... Ouais, qui en fait, on a l'impression que ça passe aux oubliettes et que pour le jeune, et même le moins jeune, le mot « je t'aime » est très important. Voilà, c'était une petite aparté, on discutait sur ça. Alors, je reviens par rapport à l'ado. Effectivement, nous, on a pas mal d'ados qui viennent sur les maisons de quartier. Mais très peu de parents. Très peu de parents qui sont concernés par leur ado. Parce que j'ai l'impression que sur l'enfance, le parent suit énormément. Je veux dire jusqu'à la CM2. Mais 6e, on a un peu les parents voilà, qui font confiance, qui décrochent un petit peu. Et 3e, voilà. Je travaille sur un quartier politique de la ville, donc sur le quartier Renaudie. Et c'est vrai quand on a énormément de soucis avec les parents, bah, ils viennent pas. Tu vois, donc ils viennent de moins en moins ou ils disent ouais, je viendrai, si ça. Et en fait, on se retrouve beaucoup en difficulté avec l'adolescent, qui est livré aussi à lui-même. Donc après, sur ça, donc, c'est vrai qu'on en discute beaucoup avec les professionnels. Alors je ne dis pas que tous les parents sont démissionnaires, bien entendu, et heureusement d'ailleurs. Et certains parents, et ça met en difficulté l'ado sur ces questions-là.
Est-ce qu'on sait pourquoi ils ne viennent pas du coup? Vous avez creusé là.
Ils n'ont pas le temps ou voilà.
Alors, ça c'est les raisons évoquées, mais du coup...
Ils ont beaucoup d'enfants, voilà, mais ça c'est un peu... Voilà,
parce que du coup, pour avoir questionné, enfin, nous, c'est vrai que mobiliser les parents, ça reste quand même une grosse question pour beaucoup de structures.
Je crois que c'est pas que nous. Hein.
Ouais, non, mais c'est bien ça. Et souvent, enfin, on a pu le creuser un petit peu. Les parents nous disent qu'ils ont aussi peur. Des fois, ils le formulent même pas, ils le verbalisent pas forcément, mais c'est cette peur d'être jugé, d'être disqualifié en tant que parent, et de se dire que tiens, de par le regard du professionnel, qui en plus de ça est un professionnel, donc forcément. Fort, enfin, du coup, lui va leur porter un regard et qui va, et du coup, les parents risquent de se sentir diminués et pour pas dire, voilà, peut-être potentiellement par certains jugés, mais
en fait, la question, moi, je la prends à l'envers, c'est-à-dire, c'est en gros, c'est que voilà, ils sont quand ils arrivent à la maison, donc on sait ce qu'ils font, mais ils savent pas ce qu'ils font à l'extérieur, et c'est là où je dis que voilà, le boulot, ce travail-là, on doit le mener. Bah, parents et professionnels, c'est-à-dire en gros, voilà, votre enfant, bon, ça se passe peut-être bien à la maison, mais à l'extérieur, ça se passe mal, je vous le dis. Mais par contre, c'est pas un jugement, c'est comment on fait, comment nous, on peut vous aider, tu sais, pour que votre ado puisse rentrer dans les bons rails, c'est juste ça. Mais en fait, alors, c'est compliqué parce que moi, j'ai la confiance des familles et des parents, donc j'ai cette chance-là, mais peut-être, tu vois, et ça passe beaucoup mieux.
Après, c'est une chance, c'est surtout un travail, hein, la confiance, je veux dire, ça se trouve pas dans un kinder,
dans le quartier. Donc
oui, mais voilà, c'est pour ça, c'est une vraie relation qu'il y a. Voilà. C'est pas un...
Mais en tout cas, je sais que par exemple, quand j'ai un souci avec un ado, bah, y a des parents, tellement qu'ils nous font confiance, bah, débrouille-toi avec lui, quoi. Tu vois, c'est... Voilà. Et on verra plus tard. Et ça, tu vois, ça me gêne, tu vois, parce que c'est pas mon enfant. C'est votre enfant, en fait.
En fait, je voudrais juste rebondir par rapport à ce qu'il dit. C'est vrai que moi, je suis maman. J'accompagne pas mes enfants sur toutes les activités. Alors, je les ai beaucoup accompagnés. Je les ai même beaucoup emmenés avec moi quand ils étaient plus petits, donc dans les maisons de quartier ou dans d'autres centres où ils accueillent des petits. Et en fait, c'est vrai que c'est bien fait en sorte que le parent et l'enfant soient ensemble, parce qu'on ne peut pas les emmener et les laisser là-bas. Alors qu'en tant qu'ado, bah, en fait, déjà, on leur donne un peu plus de responsabilité. L'accueil, elle est pour eux. Et en fait, je ne sais pas s'il y a une communication qui est bien faite. Est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont bien donnés? Je ne sais pas, moi, le mercredi après-midi, il y a tel thème. Et c'est vraiment parent-ado. Et donc là, le parent, il se sentirait un peu plus responsable pour qu'il vienne à ce rendez-vous-là. Est-ce qu'ils sont attendus à chaque fois? Enfin, par rapport à ce qu'il dit, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont peut-être démissionnaires, d'autres qui ne savent pas trop. Est-ce qu'ils ont la place? Est-ce qu'ils sont légitimes à être là? Nous, ça a été le cas pour l'UPP. quand on a commencé l'UPP, on s'est dit, est-ce qu'on est légitime de parler, est-ce qu'on est légitime d'aller dans tel endroit. Une fois qu'on fait partie de ce groupe-là, on a l'impression que toutes les portes sont ouvertes, qu'il n'y a aucune porte qui est fermée. En fait, en tant que parent, on est tout autant important, et notre place est là, en fait. On n'a pas à la demander, on doit la prendre. Et c'est quand on fait ces genres de, quand on intervient dans ce genre de groupe, on le sait. Donc pour certains parents, ça doit être compliqué de sortir parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, mais en même temps, ils ont peut-être peur aussi parce que, est-ce que c'est leur place? Est-ce qu'ils doivent être là? Est-ce que leur ado laisse cette place-là aussi? Donc je comprends qu'il n'y a pas de parents, mais est-ce qu'il y a toute cette mise en place, est-ce qu'elle est faite d'abord avant de demander à ce que le parent vienne? Surtout dans des parents dans des quartiers où quand on va dans les maisons de quartier ou dans les centres sociaux, on a tout le temps peur du regard. On se sent d'abord jugé avant d'aller dans une activité, donc peut-être qu'il faut trouver un autre moyen et peut-être une autre manière de communiquer. Je pense que la communication, elle ne doit pas se faire correctement, si je peux le dire.
C'est vrai que pour le coup, il y a vraiment le contexte et faire en sorte que les parents s'autorisent à. Oui. La question de s'autoriser.
Peut-être je rebondis aussi sur la présence des parents avec leurs ados. Et en fait aussi, peut-être il faut qu'on prenne en compte la vie de nos ados, en fait. Parce que les enfants, quand ils sont petits, ils n'ont pas le choix qu'on va les accompagner pour les activités ou quoi de soit. Mais pour les adolescents, en fait, ils aiment bien être autonomes. Pour aller à la maison de quartier ou pour le pôle jeunesse, ils aiment bien être vraiment en autonome. Ils vont faire un groupe de deux, trois ados. Ils vont y aller ensemble, ils vont rentrer ensemble. Donc, en fait, ils ont... Je parle pour mes enfants, et peut-être la première fois, ils ont accepté que je les accompagne, mais après, ils ont dit non, mais c'est bon, moi je suis grand, là, je peux y aller avec mes copains, mes copines. Donc en fait, nous, les parents, on a les contacts entre nous, on se met d'accord que les enfants, ils vont faire le trajet aller-retour ensemble. Et peut-être aussi du côté du pôle jeunesse ou les autres professionnels, de faire un temps parent-ado. Donc vraiment faire une invitation auprès des parents. Et ça, on va avoir, l'autorisation d'être présent avec nos ados.
Moi, ce que je voulais dire un peu aussi en tant que professionnelle, c'est que je vois bien qu'il y a cette période critique de l'adolescence, elle vient toucher profondément le parent. Parce que l'adolescent, il est un peu le champion pour aller dans nos failles, pour nous faire nous toucher ce qui est fragile en nous, en fait. Et ce qui est peut-être pas assez cadré, peut-être ce qui est pas assez ordonné, peut-être ce qui est pas assez posé, quelque chose qui manque un peu de stabilité dans le parent. Il vient vraiment nous titiller pile là où ça fait mal. Et du coup, ça met notre estime de nous-mêmes en tant que parents en fragilité. Et du coup, les lieux de parole comme ça qu'on propose, par exemple le labo des parents, c'est vraiment un lieu où le parent, il va pouvoir, en toute humilité, dire sa difficulté et entendre aussi que l'autre parent, il a la même difficulté, et puis l'autre, il a déjà dépassé cette difficulté, et puis il a trouvé une piste, une idée, et petit à petit a retrouvé confiance en lui pour se dire, oui, ça me touche moi en tant que parent parce qu'il vient frapper là où ça fait mal, mais je suis en capacité aussi de trouver mes propres solutions, de mettre un cadre, de trouver des repères, d'être fort pour assurer, d'être un peu ce mur sur lequel il va venir buter, parce que l'ado, c'est un spécialiste pour venir aller buter et d'aller chercher à rencontrer la limite. Et comment je la mets, moi, cette propre limite à moi, qui me correspond à moi-même dans mon cadre de vie, dans ma culture, dans mes idées, dans mon milieu. Et ça, on peut prendre des idées des uns des autres et trouver soi-même sa propre identité en tant que parent. Et du coup, des lieux de parole, pour moi, c'est essentiel parce que c'est entre parents que vous trouvez presque vos meilleures solutions. Voilà.
Ah, c'était un beau mot de conclusion, Greg, que tu en penses?
Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. J'en pense pas moins, en tout cas. Merci beaucoup à toutes tous nos invités. C'est bien, au moins on finit sur du sourire, c'est cool.
Voilà, donc vraiment, on remercie du coup l'implication de chacun. Je crois qu'on a vraiment entendu cette importance de considérer la parole de chacun, considérer la parole des ados, qu'elle soit bien entendue par les parents, mais je crois que les ados aussi sont en capacité d'entendre ce que vivent les parents et qui sont en capacité de prendre le recul aussi pour comprendre la vie de parents, hein, quand on entend les ados qui nous parlent de ce que c'est facile d'être parent. Donc bon, bah, finalement, je crois qu'on en est sur cette question du dialogue. Trouver les contextes aussi qui permettent à chacun de s'exprimer. Et c'est ce qu'on essaie de faire bah, tous ensemble, hein, au travers de tout ce qu'on porte mutuellement et qu'on arrive aujourd'hui à croiser grâce à cette action. Du coup, en famille, ça pétille. Et moi, j'irais même, des fois, en famille, ça picote. Donc, on se retrouve, prochaine émission Parents Live, le 8 octobre, dans les studios de News, avec donc la thématique de la médiation familiale, avec notamment la sauvegarde de l'Isère et plein d'autres invités, parce que la médiation, c'est toujours pareil, ça se discute, il faut pouvoir en parler, s'autoriser à en parler, et c'est pas forcément des situations de crise explosive. Voilà, donc on vous souhaite un bel été.
Merci
à toutes et à tous. Merci. Et on vous dit à bientôt. Grégos, bon été. N'oublie pas la crème
aussi.
Solaire.
Ouais, toi aussi, oublie pas. Et les rendez-vous sur News FM, les amis, à 16h16-19 avec Sana et Zazie. Loupez pas ça. Et on se dit à plus tard. Ciao, ciao.
Parents Live, la vie de famille en direct. Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados? Racontez-vous. Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, pas celle des pubs télé. Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM de 13h à 14h. Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos réalisées par les parents pour les parents sur parentslive.fr.